Bonsoir. Voilà. Donc, nous allons commencer notre étude. Et donc, comme d'habitude, est-ce que quelqu'un peut juste prier pour nous remettre le moment que vient le Seigneur?
Qui cherche vraiment notre bonheur. Et notre bonheur, tu nous l'as donné par ta parole et nous te bénissons pour cette étude de ce soir. Mais là, Père Céleste, tu vois, nous voulons implorer ta grâce pour ma vie. Tu vois combien elle souffre de son ulcère à l'estomac. Vraiment, nous te prions de poser ta main sur elle et puis qu'elle puisse se nourrir, s'alimenter pour retrouver des forces. Et puis, tu vois aussi ce déséquilibre constant qu'elle a et ses chutes. Et là, cette blessure maintenant, Seigneur notre Dieu, vraiment, nous te prions pour elle et te demandons de la bénir. Tu peux toutes choses et tu sais toutes choses. Oui. Ce que nous te remercions par-dessus, c'est qu'elle elle garde l'assurance que tu es avec elle. Et ça, c'est incroyable de voir, de l'avoir passé par tant de souffrances et comment elle a encore que tu lui donnes encore cette espérance, cette foi. Et merci pour cela. Merci. Et vraiment, continue de lui donner, d'être avec elle et d'être auprès d'elle. Nous te remercions pour cela. Au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Donc, ce soir, nous continuons notre étude sur l'évangile de Marc. Et nous allons prendre donc quelques indications pour pouvoir mieux suivre. Donc, je vais vous faire passer les feuilles. Voilà. Alors, il y a les feuilles sur lesquelles nous allons suivre. Je vous donne dans un premier temps. Et je préparais aussi pour qu'on puisse mieux comprendre, aussi mieux suivre ce qui va se passer, comment ça se passe, dans quel contexte ça se passe. J'ai préparé une deuxième feuille qui peut être utile pour d'autres études aussi. Hein. Donc, voilà. C'est vraiment un résumé, mais quelque chose que j'ai trouvé dans une Bible, hein, la Bible Thompson. C'est la dernière semaine, dite la semaine de la Passion, de la semaine sainte, que notre Seigneur a passée sur la terre. Donc là, il est résumé tout ce qui s'est passé, tout ce que les évangiles nous disent à propos de cette dernière semaine. Donc c'est la deuxième semaine, qui est utile pour notre étude, mais que vous pouvez garder aussi pour vos études, pour toutes choses utiles. Voilà. Alors, donc, je rappelle, nous sommes dans l'évangile de Marc et nous sommes arrivés à cette dernière semaine, la semaine de la Passion, la semaine sainte, où le Seigneur va monter à Jérusalem. Pourquoi ? Pour célébrer la Pâque. Donc, chaque juif, d'après la loi, doit monter à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Et donc, nous sommes dans cette dernière semaine. L'heure est venue pour le Seigneur de se manifester ouvertement. Jusque-là, il le faisait, disons, pas de manière vraiment frontale. Mais là, ça va être une confrontation vraiment d'une manière ouverte. Il va se manifester au peuple juif comme étant celui qui est venu pour expier les péchés du peuple. Donc, dans un premier temps, le Messie souffrant. Nous sommes là dans les préparatifs de Pâques et les disciples vont accompagner notre Seigneur pour préparer la Pâque. Nous avons vu avec notre frère Benjamin la dernière fois que toute cette semaine a commencé par l'entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem. C'est une entrée triomphale parce que le peuple saisit, mais saisit mal, parce que le peuple a compris que Jésus était un personnage pas quelconque, qu'il était le Messie, mais qu'il était le Messie roi qui est venu pour établir ce qui avait été promis à David, le règne d'Israël, à perpétuité. Donc, comme ils étaient sous le joug romain, que Jésus, ils s'attendaient à ce que Jésus commence par chasser l'occupant romain. Ça, c'est le peuple. Dans une allégresse incroyable, Jésus est accueilli lorsque il va monter vers Jérusalem. Nous sommes donc le dimanche. Alors, c'est ça qui est intéressant dans les feuilles que vous avez reçues, là, que je vous ai données. C'est que tout est vraiment détaillé jour après jour. On suit le Seigneur à la trace, ce qu'il fait jour après jour dans cette dernière semaine. Nous sommes donc le dimanche, entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem. Dimanche, c'est J-6. J étant le jour de la crucifixion de notre Seigneur, qui est, selon donc, ce que nous avons compris de la parole de Dieu, le vendredi, appelé le vendredi saint. Nous sommes donc dimanche, J-6. Mais il y a quelque chose qui contraste avec cet accueil triomphal, c'est l'accueil que nous réservent les responsables, les chefs religieux, les pharisiens et autres sacrificateurs, qui sont au contraire de plus en plus déterminés à s'opposer à Jésus, et même ils sont décidés à le faire mourir. Ils ne croient pas en lui. Jésus révèle de plus en plus leur méchanceté, leur hypocrisie, tout ce qui fait qu'ils ont une religion de façade, et ça, ils n'arrivent plus à le supporter. Ils ne supportent pas cette espèce de rabbin autoproclamé qui n'a pas fait des études universitaires, des études théologiques et qui vient enseigner le peuple et qui de plus va se réclamer de quelque chose dont, enfin, selon leur compréhension, qui n'a pas le droit de revendiquer. Et voilà, donc la confrontation promet d'être vraiment quelque chose d'explosif. Parce que Jésus, évidemment, va jusqu'au bout. C'est la dernière semaine, il n'y a plus rien à cacher. Et les chefs religieux, eux aussi, sont déterminés à s'opposer à lui. Et donc, que va-t-il se passer? Comment tout cela va se passer? Nous allons donc suivre jour après jour comment les choses se passent. Donc, maintenant que l'entrée triomphale de Jésus a été finie, le dimanche soir, Jésus rentre donc à Béthanie. Et là, il va passer, hein, comme toute la semaine d'ailleurs, il va passer la nuit à Béthanie. Hein, on pense donc dans la famille de Marthe et à Lazare. Et donc le lendemain matin, donc le lundi à J-5, que va-t-il se passer? Marc chapitre 11, versets 12 à 14. Est-ce que quelqu'un peut lire Marc au chapitre 11, versets 12 à 14?
Le lendemain, comme il quittait Béthanie, Jésus eut faim. Il aperçut de loin un figuier qui avait des feuilles et alla voir s'il y trouvait quelque chose. Mais quand il se fut approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors Jésus prit la parole et lui dit que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent.
Voilà. Alors ici, nous avons affaire à un arbre qui s'appelle le figuier. Bon, tout le monde pense déjà sait ce que c'est. En tout cas, dans la région, il y a pas mal de figuiers. Hein. Trois arbres symbolisent Israël, nous les connaissons. Le premier, enfin, pas dans l'ordre, mais disons, si on les cite, il y a l'olivier, il y a la vigne, et il y a le figuier. Alors, concernant le figuier, nous pouvons aller dans Osée, au chapitre 9, verset 10. Est-ce que quelqu'un peut lire Osée, chapitre 9, verset 10, qui nous montre que le figuier est le symbole aussi d'Israël. Osée, chapitre 9, verset 10.
J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. J'ai vu vos cœurs au commencement comme le premier fruit du figuier.
Voilà. Donc là, on comprend qu'il s'agit d'Israël. Mais en lisant ce passage que nous venons de lire là de Marc, hein, il y a un petit problème qu'il faudrait expliquer. Parce que Marc dit que ce n'était pas la saison des figues. Et pourtant, Jésus va maudire le figuier parce qu'il ne portait pas de figues. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Est-ce que Jésus a agi sur un coup de tête de quelque chose qui était de toute manière pas possible puisque ce n'était pas la saison des figues? Que se passe-t-il? Est-ce que notre Seigneur, sa réaction a été illogique? Évidemment non, la réaction du Seigneur n'est pas illogique. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on explique un tout petit peu par rapport à la saison des figues en Israël. Comment ça se passe? Alors nous allons faire un petit aperçu de botanique. Et voilà ce qu'on découvre en fait. Bon, c'est pas la bonne image, ça sera après. Voilà. Nous allons faire une petite animation, donc un petit diaporama. Comment commence une saison normale de figues en Israël? Tout commence en mars avec l'apparition des premiers bourgeons et des premières petites figues, suivies au début avril des feuilles qui apparaissent, hein, donc les feuilles ont grandi. Et les figues ont grossi quelque peu. Et cette première, ces premières figues sont comestibles. Mais ce n'est pas encore la saison des figues. Parce que ces premières figues-là doivent grandir, acquérir la maturité pour arriver enfin à la vraie saison des figues, qui est fin mai, et voilà, ce qui promet une belle récolte. Donc, mois de mars, bourgeon, première figue, comestible jusqu'au mois d'avril, après on laisse faire, et fin mai, c'est la vraie saison des figues. Et notre Seigneur, voilà ce qu'il attendait de ce figuier qu'il a visité, et ce qu'il n'a pas trouvé. Ce sont ces figues-là. Et ces figues-là sont bonnes, sont comestibles. Mais est-ce que c'était donc un acte insensé de maudire le figuier? Bien sûr que non. Mais pourquoi? Mais parce que quelquefois, à côté d'une date, pendant une, comment dire, après les saisons dites normales, de temps en temps, il arrivait qu'une saison anormale se glisse dans cette liste-là, et qu'au mois de mars, au lieu d'avoir des figues, les premières figues, il n'y a que les premières feuilles. Et quand ça commence comme ça, on est sûr que ce figuier-là ne donnera pas des figues, parce que vous pouvez revenir au début avril, vous aurez des grandes feuilles, mais pas de figues. Vous revenez plus tard, donc il n'y a pas de figues précoces, hein, et c'est dans cette situation du début avril-là que notre Seigneur a trouvé ce figuier qu'il a maudit. Il n'y a pas de figues précoces, donc il n'y aura pas de saison de récolte à proprement parler. Donc, en fin mai, vous allez vous retrouver avec un figuier où il n'y a que des feuilles. Donc, le fait que le figuier ne porte pas les premières figues veut dire que de toute façon, il n'y aura pas de figues. Il n'y aura pas du tout de récolte de figues pour ce figuier-là. Donc, ce n'était pas un acte insensé, c'était quelque chose de tout à fait logique. Ce figuier-là, de toute manière, n'allait pas donner de figues. Et voilà, le Seigneur donc a maudit ce figuier dans cette période de début avril. La conclusion, c'est laquelle? La conclusion, c'est que lorsque Dieu attend du fruit, et que ce fruit ne vient pas au temps convenable, donc ici, on attend le fruit mars, ça ne vient pas. Le temps convenable, début avril, rien ne se passe, ça veut dire que de toute manière, le fruit ne viendra jamais. Et donc, conséquence, Dieu prononce la malédiction. Alors, maintenant, excusez-moi, je reviens en arrière, ça c'était pas, c'est des choses qu'on va voir tout à l'heure. Et donc, finalement, nous sommes dans cette situation-là qui doit nous interroger. Dieu attend du fruit de chacun de ses enfants. Il attend, il patiente, il patiente, il patiente. Au temps convenable, Dieu revient pour regarder si on porte du fruit. Il n'y a aucun fruit. Ça veut dire qu'il n'y aura jamais de fruit. Alors la question se pose, mais c'est quoi ce temps convenable? Qu'est-ce que c'est que ce temps convenable? Mais ce temps convenable, c'est tout simplement ce que dit l'Épître aux Hébreux. Si on va dans Hébreux chapitre 6, verset 7 à 8, hein, si quelqu'un peut dire Hébreux chapitre 6, verset 7 à 8. Et quelqu'un d'autre pourrait chercher 2 Corinthiens 6, verset 2, et si possible dans la version Semeur, hein, S-E-M, donc c'est la version Semeur. Si quelqu'un a la version Semeur, de 2 Corinthiens 6, 2, et sinon on commence donc par Hébreux chapitre 6, verset 7 à 8. Quelqu'un pourrait-il lire?
Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et prête d'être maudite, et on finit par y mettre le feu.
Voilà. Donc lorsque Dieu patiente, qu'il n'y a pas de fruit, il n'y a pas de fruit, Dieu sait qu'à un moment donné, de toute manière, il n'y aura pas de fruit. Il n'y aura jamais de fruit. Donc cette terre finit par la malédiction. Le temps convenable maintenant, dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2, si possible la version Semeur. Est-ce que quelqu'un aurait une version Semeur? Sinon je vous la lis, hein, je l'ai là. En effet, Dieu déclare dans l'Écriture, au moment favorable, j'ai répondu à ton appel, et au jour du salut, je suis venu à ton secours. Or, c'est maintenant le moment tout à fait favorable. C'est aujourd'hui le jour du salut. Le temps convenable où Dieu vient chercher du fruit, c'est quand? C'est maintenant. C'est aujourd'hui. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, Dieu patiente et vient chercher du fruit. Mais attention, Le aujourd'hui, il ne faut pas qu'il se transforme en « c'est trop tard ». Il ne faut pas qu'il se transforme en « c'est trop tard ». Regardez Hébreux chapitre 3, verset 7 à 9. Est-ce que quelqu'un peut lire Hébreux chapitre 3, verset 7 à 9?
C'est pourquoi, comme dit l'Esprit Saint, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme dans l'irritation, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères m'ont tenté en m'éprouvant et ont vu mes œuvres durant 40 ans.
Voilà. Aujourd'hui, c'est le jour favorable. C'est le jour de porter du fruit. C'est le jour de se donner au Seigneur. C'est le jour d'accepter Jésus-Christ dans son cœur. Et en acceptant Jésus-Christ dans son cœur, on va voir tout à l'heure qu'on va porter du fruit. Ces premiers fruits que le Seigneur recherche, nous allons les porter de manière tout à fait naturelle. Mais aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Le moment favorable, le temps convenable, c'est aujourd'hui. Or, le figuier, nous avons vu, le figuier représente Israël. Mais Israël, malheureusement, ne porte que des feuilles. Voilà la situation d'Israël. Israël ne porte que des feuilles. Aucun fruit pour la gloire de Dieu. Et pourtant, pendant des siècles, Dieu a pris soin de son peuple, malgré sa nature rebelle. Dieu lui a envoyé des prophètes. Dieu lui a envoyé même des épreuves pour le faire revenir à lui, mais rien à faire. Et à chaque épreuve, Dieu ne permettait pas que son peuple soit éprouvé au-delà de tout ce qu'il pouvait supporter. C'est-à-dire ne le livrait pas complètement jusqu'à être exterminé. Mais malgré cela, Israël s'est toujours révolté contre la volonté de Dieu. Et voilà que Jésus se présente enfin comme le Messie annoncé par les prophètes pour délivrer Israël de ses péchés. Mais qu'est-ce qu'on remarque? À la fin de son ministère, voilà que les responsables religieux veulent tout simplement sa mort. Aucun fruit, que du feuillage. Le feuillage, ce sont ces cris que le peuple crie quand Jésus est rentré donc dans Jérusalem. Hosanna au plus haut des cieux, gloire à Dieu. Mais ça fait beaucoup de bruit, c'est vrai que c'est très joli tout ça, mais c'est des belles feuilles qui n'ont pas de lendemain. Parce que le lendemain, ce même peuple va crier, crucifie, crucifie-le. Le même peuple qui a crié Hosanna. Ça veut dire que ce peuple-là, Jésus va prononcer sur lui une malédiction. Le figuier maudit est un signe de la malédiction du peuple d'Israël, au moins pendant un temps, on va voir. Donc, porter des feuilles, ça peut paraître très beau, un beau feuillage, bien vert, bien touffu, mais ce n'est qu'un feuillage. Vous ne trouverez rien à manger, il n'y a rien qui puisse satisfaire, qui puisse rassasier, rien. Regardez ce que dit Ésaïe à propos du peuple d'Israël. Allons dans Ésaïe au chapitre 9, verset 13. Ésaïe 29, 13.
Le Seigneur dit, ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement humain, une leçon apprise. C'est pourquoi je continuerai à étonner ce peuple par des merveilles et des miracles, de sorte que la sagesse de ses sages disparaîtra, et l'intelligence de ses hommes intelligents devra se cacher.
Ce peuple se tourne vers moi, mais ce n'est qu'en parole. Est-ce que je me tourne vers Dieu? Est-ce que je parle de Dieu avec beaucoup de paroles, avec beaucoup de citations même bibliques, mais qu'au fond, tout ça, ce n'est que lettre morte? Est-ce que dans mon cœur, je mets en pratique ce que je dis, ce que je prononce, ce qui vient de la parole de Dieu. Est-ce que je le mets en pratique? Sinon, ce ne sont que des feuilles. Et voilà comment le peuple d'Israël honorait Dieu par beaucoup, beaucoup, beaucoup de feuilles. C'est vrai que c'est un peuple qui affichait une religiosité incroyable. C'est un peuple qui respectait la loi de Moïse à la lettre. Mais ce n'était que de manière superficielle. Et la condamnation du figuier est un signe prophétique. Jésus, en faisant ce geste, annonce la destruction de Jérusalem, la destruction du temple en l'an 70 par un général romain qui s'appelait Titus. Titus a rasé Jérusalem, il a détruit le temple en l'an 70. C'en était fini du figuier, le figuier était coupé, il était sec, il ne pouvait plus produire le figuier. Mais attention, loin de nous le fait de conclure que Israël est un peuple maudit de manière perpétuelle. Surtout, n'allons pas dans cette direction-là parce que c'est faux. Israël a été mis de côté pour que toi et moi nous puissions entrer dans le peuple de Dieu. Nous qui ne sommes pas d'origine juive, comment aurions-nous pu entrer dans le peuple de Dieu si Israël était encore présent? Parce que le peuple de Dieu, le peuple élu de Dieu, c'est bien Israël. Donc toi et moi, nous sommes entrés dans le peuple de Dieu parce que pour un temps, Israël a été mis de côté. Et c'est une grâce pour nous. C'est une grâce. Regardez ce que dit Romains chapitre 11, versets 25 à 27. Si on peut le lire, Romains 11, 25 à 27.
En effet, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous preniez pas pour des sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soit entré. Et ainsi tout Israël sera sauvé, comme le dit l'Écriture. Le libérateur viendra de Sion, et il écartera de Jacob les impiétés. Et telle sera mon alliance avec eux lorsque j'enlèverai leurs péchés.
Voilà. Donc Israël va, et c'est dans le futur, on n'y est pas encore, va être rétabli dans son rôle premier. Israël jouera réellement le rôle que Dieu voulait qu'il joue. Mais ça, c'est des événements à venir. Le figuier maudit est aussi une illustration de la religion de façade, qui ne porte pas de fruits, et de toute façon, qui ne peut pas en porter. Parce que, pourquoi ? Parce qu'en dehors de Jésus-Christ, et c'est ce que les Juifs ont fait, ils ont rejeté le Christ, en dehors de Jésus-Christ, nul ne peut porter du fruit pour Dieu. Et Marc précise bien, ce n'était pas la saison des figues. Personne, en dehors de Christ, ne peut porter du fruit pour Dieu. Ce n'est même pas la peine d'essayer. Parce que la condition pour porter du fruit, c'est que nous soyons attachés au vrai cep. Si tu es détaché du vrai cep, tu porteras des fruits, mais pas de fruits pour Dieu. Des fruits pour le monde, des fruits pour le diable, mais pas de fruits pour Dieu. Pour porter du fruit pour Dieu, Dieu nous a greffés dans cet olivier-là. Et si nous restons attachés au vrai cep, Dieu nous a greffés donc dans ce vrai cep. Si nous restons attachés à ce vrai cep, ce n'est qu'à ce moment-là qu'on va porter du fruit pour Dieu. Pour Dieu. Parce que regardez ce que dit Jean chapitre 15, verset 5. Dans la version d'Arby, est-ce que quelqu'un a la version d'Arby? Oui, est-ce que tu peux lire Jean 15, 5, s'il te plaît?
Oui. Moi, je suis le cep, vous les serments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire.
Oui, j'aime bien ça aussi. C'est-à-dire, séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, Jésus, donc, va le signifier. au peuple, aux responsables religieux, et ce qui va lui attirer de plus en plus l'animosité, la colère de la part des chefs religieux. Voici maintenant qu'ils arrivent à Jérusalem. Et qu'est-ce qui va se passer à Jérusalem? Marc chapitre 11, versets 15 à 19. Si quelqu'un peut lire dans Marc 11, 15 à 19.
Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, « N'est-il pas écrit, « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville.
Merci. Est-ce que cet épisode qui se situe donc à la fin, nous sommes dans la dernière semaine du Seigneur, ça ne nous rappelle pas une scène semblable? Si, au début du ministère de Jésus, c'était exactement pareil. Jésus a commencé son ministère en chassant les marchands, les vendeurs du temple. En fait, de quoi s'agit-il? C'est que le temple de Dieu, donc c'est ce que vous avez ici, hein, le temple de Dieu, ici passaient des choses absolument incroyables, parce que le souverain sacrificateur avait permis qu'au lieu que les personnes viennent, c'est vrai que ça partait apparemment d'un bon sentiment, au lieu que les personnes viennent du fond de leur village là-bas en amenant une bête jusqu'à Jérusalem, et au risque même de se faire refuser cette bête, parce qu'il fallait que cette bête soit vue par le souverain sacrificateur pour être déclarée bête possible pour le culte, pour le sacrifice. Merci René. Eh bien, en fait, le souverain sacrificateur, donc à l'époque c'était Caïphe, a dit non, écoutez, je permets un commerce aux alentours du temple, vous pouvez venir les mains vides, mais vous achetez tout ce dont vous avez besoin une fois arrivé au temple. Donc c'était quelque chose qui semblait être pratique, mais en réalité, le souverain sacrificateur, enfin, il y avait toute une mafia dont le souverain sacrificateur faisait partie. C'est-à-dire, c'est quoi cette mafia? Les gens arrivaient dans le but d'acheter une bête, un pigeon, quelque chose comme ça, afin d'offrir des sacrifices à l'Éternel. Mais seulement, ils étaient raquetés. C'est-à-dire qu'en fait, on leur demandait un droit de, non seulement de vente pour ceux qui vendaient, mais un droit d'achat pour ceux qui achetaient, une espèce de taxe, une espèce de TVA. Et cette TVA allait dans les poches de qui? Les poches des responsables religieux. Voilà. Donc pour eux, c'était du commerce lucratif. Et Jésus arrive là, arrive dans ce temple. Et voilà donc comment dire? Je peux faire juste une petite animation ici. Hein. En fait, voilà là où se passe, là où il y a tous les marchands, c'est à cette porte-là, la porte dite des offrandes. Comment? Oui, c'est vrai. Merci Pascal. Voilà. Et donc, les gens achetaient ici et rentraient avec à l'intérieur. Ouais. C'est quand même incroyable que le pauvre juif qui arrivait, déjà fatigué d'un long voyage, avec peu de moyens, il arrivait, il achetait une bête ou un oiseau, quelque chose comme ça, et en plus, il payait des taxes. Et en plus, ces taxes-là n'étaient pas rétroversées au peuple, mais non, c'était gardé par une mafia dont le souverain sacrificateur était l'un des responsables. Voilà comment ça se passe. Et évidemment, Jésus, outré, va chasser tout ce trafic va renverser les tables. Et il y avait aussi là des gens qui changeaient la monnaie, parce que la monnaie autorisée, c'était la monnaie du temple. Il fallait, quand on arrivait avec la monnaie grecque ou romaine, hein, qui était la monnaie en cours à l'époque, eh bien, il fallait l'échanger contre la monnaie du temple. Et les cours de change étaient évidemment au profit de qui? Au profit des religieux. Voilà comment ça se passait. Un trafic, un racket, on racketait le peuple. Et ça, de manière tout à fait légale, puisque c'était le souverain sacrificateur qui avait permis ce trafic-là. Et il fermait les yeux, bien entendu. Et Jésus va citer deux passages. Un passage d'Ésaïe 56:7, est-ce que quelqu'un peut lire Ésaïe 56:7?
Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples.
Voilà, une maison de prière pour tous les peuples. Et puis, Jérémie chapitre 7, verset 11. Jérémie 7, 11. Jérémie va reprendre la même idée.
Elle a posé une taverne de brigands, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, je le vois moi-même, dit l'Éternel.
Voilà. La maison de l'Éternel était devenue un lieu, une caverne de brigands. Et Jésus donc n'y va pas de mémoire, là. Il renverse tout. Il chasse tout le monde. Il ne permet à personne de rentrer dans l'enceinte du temple avec des animaux achetés dans cette maison de trafic. Jésus revendique, en faisant cela, en fait, Jésus se met au-dessus de l'autorité religieuse la plus grande, c'est-à-dire au-dessus du souverain sacrificateur. Donc, évidemment, ça va réagir. On ne donne pas un coup de pied dans une ruche sans se faire attaquer par les abeilles. Hein. Donc Jésus a donné un coup de pied dans la ruche, et évidemment les abeilles vont l'attaquer. Les choses vont se gâter, et on va le voir tout à l'heure. Alors, quelle application pour nous? Vous savez que la parole de Dieu affirme que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Regardez 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. 1 Corinthiens 6, 19. Si quelqu'un trouve...
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même?
Est-ce que ce corps, qui est le temple du Saint-Esprit, est-ce que ce corps est devenu un lieu de trafic, une caverne de voleurs? C'est une question aussi que l'on pose. Qu'est-ce que je fais du temple du Saint-Esprit? Et que faire pour que ce corps, ce temple que nous sommes, ne devienne pas un lieu de trafic, une caverne de voleurs? L'apôtre Paul nous répond dans Romains chapitre 6, versets 12 à 13. Romains 6, 12 à 13.
Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice.
Offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, et non, livrez vos membres au péché. Ça, non. Ne livrons pas nos yeux, nos mains, nos jambes comme des instruments qui vont commettre le péché, mais plutôt comme les instruments de justice. Regardez aussi Romains 12, 1, verset bien connu aussi. Hein. Romains chapitre 12, verset 1.
Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable.
Voilà. Dieu nous demande de considérer désormais tous nos membres, toutes nos facultés, comme lui appartenant de manière exclusive. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. C'est incroyable, hein, quand on y pense. Parce que, est-ce que dans la vie de tous les jours, je m'appartiens à moi-même ou je fais tout parce que je ne m'appartiens plus à moi-même? C'est aussi une question que chacun pourrait se poser. Bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, les principaux sacrificateurs et les scribes, profondément offensés par toutes ces accusations, tout ce que fait Jésus, vont chercher à le faire mourir. Mais, comme le peuple lui est en admiration, malgré tout, devant le Seigneur, il n'ose pas le faire, en tout cas pas en plein jour. Et le soir venu, justement, Jésus sort de la ville, certainement pour aussi sa sécurité, parce qu'il ne veut pas se livrer avant le jour J. Nous ne sommes que le lundi ou le mardi, là. Donc ce n'est pas le moment de se livrer. Et aussi, pour protéger son troupeau, ses brebis, ce n'est pas le moment de livrer les apôtres aussi entre les mains des souverains sacrificateurs. Donc, le soir venu, Jésus préfère sortir de la ville pour ne pas... pour éviter tout incident. Il sort de la ville. Et donc il va passer la nuit à Béthanie et il arrive le lendemain matin, donc là nous sommes le mardi, J-4, voici ce qui se passe en Marc 11, versets 20 à 26, si quelqu'un peut lire. Marc 11, 20 à 26. Nous sommes donc mardi matin, J-4.
Le lendemain matin, en passant, les disciples virent le figuier. Il était desséché jusqu'aux racines. Se rappelant ce qui s'était passé, Pierre dit à Jésus, « Maître, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. » Jésus leur dit alors, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Retire-toi de là, et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que je vous demanderai en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Et lorsque vous êtes debout, pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père céleste vous pardonne avec vos fautes. C'était si long, mais si vous ne pardonnez pas, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes.
Merci. Donc, le lendemain, ils reviennent par le même chemin. Et il trouve le figuier qui a séché jusqu'aux racines. Donc ça, franchement, il ne pouvait plus reprendre du tout, là, en l'occurrence. Et les disciples émerveillés, Pierre toujours lui, hein, comme ça nous a été dit dimanche dernier, Pierre toujours lui, « Regarde, Seigneur, le figuier que tu as maudit. » Et le Seigneur dit donc, « Voilà, si vous avez de la foi, voici ce qui va se passer. » Alors. Beaucoup de gens, beaucoup de théologie sur ce texte qui ont dit oui, si j'ai la foi, je demande tout ce que je veux à Dieu, Dieu va me le donner parce que c'est écrit. Et ils citent ce texte entre autres. Mais ce n'est pas tout à fait ce que dit ce texte. Ce passage ne nous autorise pas, en tout cas, à prier pour recevoir la puissance d'accomplir le miracle afin de satisfaire notre ego. Mais en revanche, ce texte dit, en s'appuyant sur les promesses de Dieu, si nous avons la conviction que nous sommes dans la volonté de Dieu, conviction venant de la parole de Dieu et aussi conviction intérieure venant du Saint-Esprit, nous pouvons prier avec foi, avec la certitude que Dieu va agir. Il va répondre à notre prière. Nous pouvons exposer à Dieu avec confiance tous les sujets si nous sommes certains que notre requête est conforme à la volonté de Dieu. En fait, le plus important, c'est de savoir si nous nous situons dans cette ceinture qui s'appelle la volonté de Dieu. Si je sors de cette ceinture, c'est vrai que je peux demander tout ce que je veux. Alors, de deux choses l'une. Ou bien Dieu ne m'accordera pas ce que je lui demande, ce qui est une grâce, parce que je demande en dehors de la volonté de Dieu. Ou alors, ce qui est pire, Dieu va m'accorder ce que je lui demande, mais alors, ce n'est plus une grâce, c'est un jugement. Comme Balaam. Balaam a obtenu, il a forcé la main de Dieu. Dieu dit, mais je t'ai dit, ne va pas maudire ce peuple. Balaam essaie de tergiverser. Mais je t'ai dit, n'y va pas. Balaam insiste. Dieu dit, bon, vas-y. Vas-y maintenant. Il y va, mais c'était pour sa perte. Voilà. Donc, quand Dieu exauce une prière qui n'est pas faite selon sa volonté, ne nous réjouissons pas. Parce qu'en réalité, c'est un jugement. Mais si nous sommes dans cette ceinture de la volonté de Dieu, là, oui, la Bible nous encourage à plusieurs passages, demandez et vous obtiendrez. Demandez et vous obtiendrez. Alors là, il y a quand même une petite condition qui est rajoutée. C'est une condition qu'on ne comprend pas a priori, parce que le Seigneur va jusqu'à dire, et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. A priori, ben, ça n'a aucun rapport. Ça rime à rien, en fait. Mais, et c'est ça que j'aime de la part du Seigneur, c'est que souvent, il nous met des choses qui n'ont pas de rapport. Mais en réalité, il nous invite vite à piocher en réalité. Parce qu'il y a un rapport, évidemment. C'est qu'en fait, si vous ne pardonnez pas à quelqu'un, le refus de pardonner crée un obstacle, une espèce d'écran qui fait que votre prière ne monte pas plus haut que le plafond. Votre prière ne sera pas exaucée, c'est une grâce. Hein? Votre prière ne sera pas exaucée parce que il y a quelque chose qui est, il y a comme un nœud quelque part. Il faut d'abord défaire ce nœud. Le nœud en question, c'est ce refus de pardonner à ton frère. Mais Dieu t'a pardonné. Pourquoi tu demandes à Dieu qui est ton père? Parce que Dieu est devenu ton père. Mais comment il est devenu ton père? Parce que tu as été pardonné en Jésus-Christ. Mais alors, toi qui as été pardonné d'une dette énorme, pourquoi tu ne peux pas pardonner la petite pécadille que ton frère t'a faite là? Pourquoi tu refuses de pardonner? Et là, donc, Dieu dit, non, je n'exauce pas ta prière parce que tu ne pardonnes pas ton frère. Donc, méfions-nous. Si nous avons quelque chose contre quelqu'un, évidemment, nous devons pardonner ou demander pardon. Mais si le frère, nous savons que si le frère a quelque chose contre nous aussi, là aussi, il faut aller voir le frère et régler le problème. Dans un cas comme dans l'autre, si nous sommes responsables ou si nous sommes victimes, nous devons régler le problème. Nous ne devons pas attendre que l'autre fasse le premier pas. Et en réglant le problème, nous nous mettons dans une position favorable pour que notre prière soit exaucée. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Ésaïe. Alors, il y a un passage, nous allons le lire, Ésaïe 58, versets 3 à 10. Nous allons lire en quoi le refus de pardonner empêche Dieu d'agir. Donc, on prend Ésaïe 58, et c'est le peuple de Dieu qui parle là. Et il se plaint devant Dieu, il dit, « Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard ?» Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants, c'est la réponse de Dieu, et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici vous jeûnez pour disputer et pour vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue d'en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courbe la tête comme un jonc et se couche sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu es loin du milieu de toi le jour, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Voilà le jeûne, voilà la prière à laquelle Dieu prend plaisir. Et comme application pour nous, ayons la foi en Dieu, ayons la foi en Dieu. Jésus prit la parole et leur dit, ayons foi en Dieu, ayez foi en Dieu. Ça c'est la première condition. Et la deuxième condition, prions avec foi. J'ai foi en Dieu et je prie avec foi. C'est le verset 23. Je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc la première démarche, j'ai foi en Dieu, je prie avec foi, mais attention, pas d'orgueil. Pas d'orgueil. Et pardonnons-nous réciproquement, comme Dieu nous a pardonné. Voilà. Donc, une application pour nos vies. Et Jésus donc continue, hein, donc cette semaine, on est maintenant au mercredi. Alors certains disent on est encore en mardi, c'est possible. Mais enfin, on est entre mardi et mercredi. Donc on est entre J-4 et J-3. Et c'est l'épisode de Marc 11, verset 27 à 33. Si quelqu'un peut lire Marc 11, 27 à 33.
Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem, et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens vinrent à lui et lui dirent « Par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné l'autorité de les faire ?» Jésus leur répondit « Je vous adresserai aussi une question. Répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. » Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux, « Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ? Et si nous répondons des hommes, ils craignaient le peuple, car tous tenaient réellement Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, « Nous ne savons. » Et Jésus leur dit, « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. »
Voilà, donc voilà les abeilles qui attaquent. Évidemment, Jésus leur prive aussi de leur gagne-pain, entre guillemets, hein, de tout ce trafic dont ils tiraient profit, sans oublier que l'autorité de Jésus, en fait, chasse, ipso facto, l'autorité du souverain sacrificateur. Et donc, ils se sont dit, mais comment arrêter Jésus, puisque le peuple lui voue une admiration? Ben nous allons lui tendre un piège. On va lui tendre un piège de telle façon qu'il puisse blasphémer, il puisse dire des choses qui méritent la mort. Voilà. Donc le piège est bien tendu. Nous allons lui poser une question et quel que soit ce qu'il va répondre, ben il sera discrédité ou alors il va blasphémer. Mais dis-nous, par quelle autorité tu fais ces choses? Renverser les tables, chasser les vendeurs et tout ça. Qui t'en a donné l'autorité? Et d'abord, qui es-tu? Montre-nous tes diplômes. Quelle faculté de théologie tu as fait? C'est nous qui sommes les théologiens. Toi, tu es un gars du peuple, tu n'as pas appris. Et là, Jésus, évidemment, connaissant leur méchanceté, leur ruse, va dire quelque chose d'absolument incroyable à première vue. C'est qu'il va faire intervenir dans la discussion quelqu'un. En tout cas, on n'aurait pas pensé à cette personne-là. Et c'est là où je vous pose une petite colle, mais je sais que vous connaissez la réponse. Quel est le plus grand prophète de l'Ancien Testament? Quel est le plus grand prophète de l'Ancien Testament?
Ésaïe.
Quelqu'un d'autre?
Élie.
Élie, quelqu'un d'autre?
Moïse.
Quelqu'un d'autre?
Jean-Baptiste.
Et oui, frères et sœurs, ce n'est ni Élie qui a fait des miracles incroyables, ni Ésaïe qui a créé un livre long comme ça. Aucun de ceux-là, c'est celui qui n'a fait, dont on n'entend pratiquement même pas parler, celui qui n'a même pas été reconnu par le peuple d'Israël, celui qui n'a fait aucun miracle, au contraire, on lui a coupé la tête. Le plus grand prophète de l'Ancien Testament, c'est Jean-Baptiste. Incroyable. Regardez Matthieu chapitre 11, verset 11. Matthieu 11, 11.
Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femme, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste.
Parmi tous ceux qui sont nés femmes, il n'y a pas que Jean-Baptiste. Alors, il faut. Bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais en fait, on pourrait peut-être un jour expliquer pourquoi c'est Jean-Baptiste. En tout cas, c'est lui. C'est Jean-Baptiste. Mais que vient faire Jean-Baptiste dans ce débat où on demande à Jésus de prouver par quelle autorité il fait cela? Mais parce que Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il a dit, Jean-Baptiste? N'a-t-il pas dit quelque chose de très important? Dans Jean chapitre 1, verset 29, est-ce que quelqu'un peut lire Jean 1, 29?
Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
Voici l'agneau de Dieu. Il a désigné Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Est-ce que quelqu'un peut lire Marc chapitre 7, verset 1 à 8? Marc 7, 1 à 8.
Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent autour de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur pain avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être soigneusement lavés les mains, parce qu'ils tiennent à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après avoir fait les aspersions rituelles. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases de bronze. Les pharisiens et les scribes lui demandèrent « Pourquoi tes disciples ne marchent-ils pas selon la tradition des anciens, mais prennent leur pain ?» avec des mains impures. Jésus leur dit, « Ésaïe a bien prophétisé sur vous, hypocrites. Ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte, en enseignant des doctrines qui ne sont que des préceptes humains. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous tenez à la tradition des hommes. »
Voilà, hypocrites. Et ici, l'hypocrisie est à son comble. Parce que ces gens-là vont se retirer dans un petit coin pour débattre. Ils disent, ah, si on dit que Jean-Baptiste n'était qu'un homme, il n'était pas envoyé de Dieu, nous avons affaire au peuple. Parce que le peuple prend Jean-Baptiste pour un prophète.
Mais si nous disons que Jean-Baptiste était un prophète, alors Jésus va dire, mais pourquoi vous n'avez pas cru en lui? Parce que lui, il m'a désigné comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Donc, en fin de compte, ils sont pris à leur propre piège. Et donc, ils vont faire jouer leur hypocrisie. Tu sais, nous ne savons rien. On ne sait pas si Jean-Baptiste était envoyé de Dieu ou n'était pas envoyé de Dieu. Mais en réalité, en disant ça, ils se discréditent eux-mêmes. En fait, ils viennent d'avouer qu'ils sont incompétents pour juger Jésus. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste est un témoin. Et vous savez ce qui se passe dans une cour de justice. Si le témoin est digne de foi, ce qu'il dit est donc vrai, et donc on va suivre par rapport à ce qu'il dit. Mais si le témoin n'est pas digne de foi, tout ce qu'il va dire ne sert à rien, puisqu'il n'est pas digne de foi. Mais en revanche, si le témoin, vous ne savez pas s'il est digne de foi ou s'il n'est pas digne de foi, en fait, que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes incompétents pour juger cette affaire, puisque cette affaire repose sur son témoignage, et son témoignage, ce témoin, on ne sait pas s'il est digne de foi, oui ou non. Donc, nous sommes incompétents. Voilà. Donc, les Juifs viennent de déclarer eux-mêmes qu'ils sont incompétents pour juger Jésus. Alors, Jésus, lui, évidemment, il le savait, il connaissait leur cœur, il va les renvoyer à leur propre hypocrisie. Vous ne voulez pas me dire si Jean-Baptiste était, oui ou non, envoyé de Dieu, mandaté par Dieu. Vous refusez de le dire, mais moi, je refuse également de vous dire par quelle autorité je fais ces choses. En fait, il vient de mettre en pratique Proverbe, chapitre 26, verset 5, si on peut lire Proverbe 26, 5.
Répond à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage.
Voilà. Répond à l'insensé selon sa folie. Donc, les chefs religieux ont répondu d'une certaine manière. Mais Jésus va répondre exactement, quasiment de la même manière que à l'insensé, il faut répondre selon sa folie. Voilà. Donc, en fait, les chefs religieux de l'époque étaient des insensés. Parce que le test par excellence pour savoir si Jésus était oui ou non mandaté, envoyé par Dieu, le test par excellence, c'était Jean-Baptiste. Si vous reconnaissez le caractère prophétique de Jean-Baptiste, alors, pour Jésus, ça va être tout à fait simple. Jésus est aussi envoyé de Dieu. Donc on peut dire que Jésus a été crucifié parce que les chefs religieux ne voulaient pas reconnaître que Jean-Baptiste était envoyé de Dieu parce qu'il craignait le peuple. En fait, ce n'est pas un refus de la vérité. Parce que s'ils acceptaient la vérité, ben, logiquement, ils allaient accepter tout ce que Christ était. Et voyez-vous, pour des motifs mercantiles, pour des motifs de jalousie, pour ces motifs purement charnels, ils ont crucifié leur propre Messie. C'est vraiment triste. Ils n'ont pas reconnu l'autorité de Jésus. Alors la question qui se pose hein, comme application est nous. Est-ce qu'il y a quelque chose en nous qui conteste l'autorité de Jésus? Est-ce que nous avons, on va dire, oui, je ne sais pas si je vais pouvoir le dire, est-ce qu'il y a une certaine hypocrisie en nous qui fait que nous contestons, alors que c'est évident, nous contestons l'autorité de Jésus sur notre vie? Que chacun vraiment réfléchisse à ça, parce que la réponse que nous allons donner va faire que nous allons imiter les chefs religieux de l'époque, ou alors nous allons vraiment faire comme les disciples, suivre le Christ. Donc l'heure étant venue, on va se mettre là avec cette question. Si vous avez quelque chose, oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait peut-être juste rapidement faire une petite remarque ou quelque chose? Sinon, peut-être quelqu'un pourrait terminer par la fin. Peut-être Marie, tu peux prier, s'il te plaît.
Seigneur notre Dieu, encore une fois, merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ces moments, Seigneur. Merci pour cet éclairage nouveau, Seigneur, encore une fois, que tu mets dans notre vie, Seigneur. Et nous, Seigneur, à marcher toujours plus avec toi dans chacune chacun de nos moments de vie, Seigneur, et de grandir avec toi, Seigneur. Merci parce que on sait que c'est toi qui nous tend la main, Seigneur. Aide-nous à porter du bon fruit pour toi, Seigneur, sans hypocrisie, sans entrave, Seigneur, et à laisser vraiment notre chair morte, Seigneur, et de vivre par ton esprit chaque jour dans nos vies. Et merci pour ces moments, Seigneur. On te remet encore toutes les personnes qui n'ont pas pu se joindre à nous, Seigneur, et que tu puisses raccompagner chacun sur la route. Pour ton nom, Seigneur Jésus-Christ, Amen.
Amen.
Merci.